Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France. RTL. La curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hulquet.
Bonjour à tous, bienvenue, mais quel bonheur de vous retrouver tous les jours sur RTL, ça en avait l'habitude, du lundi au vendredi, tiens c'est un peu plus, et un peu plus tôt, de 14 à 15h. Bonjour cher Thomas.
Ça va Sidonie?
Ravi.
Il faut nous regarder sur RTL.fr parce qu'on a vraiment la banane, on est vraiment très très heureux d'être là à 14h. Nouvel horaire, nouveau défi, on est heureux, tout simplement, tous ensemble avec l'équipe de la curiosité de lancer cette nouvelle saison. Tiens, si vous découvrez l'émission, c'est possible. Le principe de la curiosité, c'est d'apprendre dans la bonne humeur.
Oui, on se passionne pour tout, mais absolument tout. L'aventure, les sagas musicales, la science, l'histoire, la nature et même les faits divers. Enfin, tout ce qui fait notre quotidien.
Et puis, si vous nous écoutiez le soir sur RTL, vous savez qu'on aime les héros français, ces stars qui nous font rêver ou qui nous ont fait rêver. Mireille Darc était l'une d'entre elles. Avec Alain Delon, elle a formé l'un des couples de légende de notre cinéma. On va découvrir leur histoire tout à l'heure. Ce sera avec Jean-Alphonse Richard.
Mais d'abord, pour cette première curiosité de la rentrée, on part à la découverte des animaux bizarres, étonnants, avec notre naturaliste préféré, Marc Giraud. Bonjour Marc.
Bonjour chers amis.
Salut Marc, ça va?
Très bien.
Alors, comme le veut la tradition, quand on vous reçoit dans notre émission, on vous déshabille. Vous pensez quoi aujourd'hui?
Vous voulez savoir si j'ai des slips kangourous?
Qu'est-ce qu'il y a sur votre t-shirt?
C'est un cours de science très très sommaire. Il y a les mammifères d'un côté, donc on voit un chien avec un petit chien dans le ventre.
Donc sur votre sein droit,
voilà.
Oui.
Et ensuite, il allait, hein, mammifère, mamelle. Et de l'autre, c'est un lézard avec des œufs. Et puis, quand il pond, les petits s'en vont et la mère s'en occupe pas.
Parce que vous avez toujours un t-shirt ou une chemise
animalière.
C'est très important de le dire. Alors, pour trouver ces animaux étonnants, bizarres, vous êtes allé en Australie.
Comme un fou.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Jusqu'à 15h sur RTL.
Le kangourou.
Skippy, c'est pas votre génération, ça, Sidonie. Non, vous étiez pas déjà devant la télé.
Non,
je crois.
Mais j'ai vu
vous
des archives.
Vous étiez même pas en pensée dans. Chez vos parents. Moi,
Charles
j'ai regardé
Trenet,
Skippy,
oui.
J'adorais ça.
Charles Trenet, oui, avec le kangourou. Tiens, d'ailleurs, le kangourou, c'est le symbole de l'Australie. Il ne vit que là-bas, que sur cette île.
Oui, dans le autour de l'île continent Australie, hein, parce que souvent il y a aussi la Tasmanie, Nouvelle-Zélande. Enfin bon, c'est vraiment cette région-là où il y a tous les marsupiaux du monde. Les marsupiaux, il y en a à peu près 250 espèces. Ils sont presque tous là-bas.
C'est quoi
et les marsupiaux?
Un marsupial, ben, ça, on dit.
Ouais,
bien sûr.
Oui, marsupial. Des marsupiaux. Ça vient du marsupium. C'est la poche. Et les kangourous ont une poche, vous savez, ouverte vers le haut comme les tabliers, parce qu'ils se tiennent debout comme nous. Mais la plupart des marsupiaux, la poche s'ouvre par le dessous. C'est-à-dire vers l'arrière. Parce qu'en fait, ils vont à quatre pattes. Donc, ça ramasserait la terre. Ça ferait un peu ramasse-poussière. Donc, en fait, la plupart du temps, les poches sont vers l'arrière et pas vers l'avant.
Mais alors, ils rentrent dans laquelle de vos catégories là? Vous nous avez dit les mammifères d'un côté, les lézards de l'autre.
Alors, c'est ce que je disais. C'est que c'est très primaire de dire les mammifères ont des petits et les reptiles des œufs. C'est pas vrai ni d'un côté ni de l'autre. Puisqu'il y a d'autres animaux, les ornithorynques, les échidnés, qui sont pas des marsupiaux. Qui sont des monotrèmes. Et eux, ce sont des mammifères qui pondent des œufs, ils sont connus pour ça, mais ils ont plein de bizarreries.
On en parlera d'ailleurs de l'ornithorynque tout à l'heure.
Ouais. Mais là, on est avec les kangourous. Alors, vous nous parliez des poches des kangourous. Les mâles et les femelles en ont? C'est-à-dire, tout le monde en a?
Alors, en général, c'est les femelles. Il y a deux espèces de marsupiaux. Les mâles ont une poche et c'est juste pour mettre leur coucougnette. Voilà, il y en a un qui nage, donc c'est quand il nage, c'est pour les mettre.
Il les range
il les range dedans.
C'est
voilà,
bien.
C'est ça, c'est un range-coucougnette. Ouais. C'est un slip kangourou.
Voilà.
Ça ressemble à quoi d'ailleurs, un kangourou?
Alors,
vous en avez jamais vu, Sidonie?
C'est surtout les pattes. Les pattes. Et après, il y a des détails anatomiques qui sont très bizarres parce que la plupart des marsupiaux, ils ont des organes génitaux assez particuliers. La femelle a deux vagins. Enfin, à la sortie de l'utérus, et en fait, ils se rejoignent, ils sont soudés, et il n'y en a plus qu'un à la sortie. Mais voilà, et les mâles ont un pénis bifide, en forme de Y, donc voilà, c'est leur particularité.
Bah, c'est logique, il y a deux vagins, il faut peut-être.
Oui, non, ça ne marche pas comme les prises de courant.
Ah, d'accord, pardon.
Non, parce qu'il ne sert pas le deuxième vagin.
Moi, je suis basique, hein, vous savez.
Non, il n'y en a qu'un, voilà.
Alors, autre petite question de curieux et de candide, pourquoi les pattes des kangourous, les petites pattes avant, sont-elles si courtes?
Ben, en fait, c'est un mode de locomotion qui est très très original, qui n'existait quasiment que chez les dinosaures. Hein, si vous avez vu Jurassic Park et toutes ses reconstitutions, les Velociraptors, etc. Ça marche sur deux grandes pattes arrière et c'est très très économiquement et énergétiquement. Un grand kangourou, hein, celui qu'on connaît tous, le grand kangourou, il peut faire du 70 à l'heure quand même avec ses pattes. Et c'est aussi rapide qu'un cheval de course très performant au triple galop. Et il dépense à peu près 25% d'énergie en moins qu'un cheval au galop. Donc c'est vraiment très énergétiquement intéressant.
Mais cette longue queue là des kangourous, ça les gêne pas ?
Ça fait balancier justement. Oh, si
j'allais vous poser une question Thomas, mais non.
Ça suffit Sidonie, ce petit regard là moqueur. Non, elle sert à quoi sérieusement ?
Les vacances ont été bonnes.
Hein. Oui, on a profité. Hein. Chacun de son côté, mais on a profité. Alors elle sert à quoi ?
Ça sert de balancier quand il court, hein, et sinon ça sert de trépied quand il s'assoit. Vous savez, ça fait bon, il y a les deux pattes arrière et ça fait trépied. Voilà, il s'assoit dessus.
Ah ouais, c'est pratique.
Et ça peut faire
quand
aussi.
Quand on fait du camping, en fait,
oui,
c'est bien.
Il
ouais.
peut même quand ils se détendent, vous savez, quand ils donnent des coups de pied, qu'ils sont assis, ils sont juste sur leur queue, qui est quand même assez puissante.
Alors on parlait de cette poche qu'ont les femelles et les mâles. C'est les femelles quand même qui sont enceintes. Oui. On est d'accord, ça, c'est comme chez
Jusque-là,
nous.
Jusque-là, tout va bien.
Ça se passe comment la grossesse ?
Alors, bah, ça se passe très bien et l'accouchement aussi, parce que le petit naît prématuré. Vraiment tout petit, c'est un fœtus, c'est un embryon. Donc la mise bas, il n'y a pas de contraction, il n'y a rien.
Il naît dans la poche
Alors avant de sortir de la poche, il est grand comme une abeille. Hein. C'est tout petit, on dirait un espèce de malabar mâchouillé, c'est informe. Ça n'a pas encore de membres, c'est aveugle, ça n'a pas de poils, c'est tout rose. Ouais. Et ça a juste des petits moignons et ça rampe vers la tétine.
Donc ça veut dire, si j'ai bien compris, que la gestation continue dans la poche de la maman kangourou,
absolument.
C'est ça, d'accord.
Oui, parce que ce ne sont pas des animaux placentaires, justement, avec un placenta, c'est plus compliqué. Alors, 2 heures avant la naissance, la femelle kangourou se lèche depuis la sortie, si vous voyez ce que je veux dire, jusqu'aux tétines. Elle fait une sorte d'autoroute de salive et d'odeur, et comme ça, le petit, quand il naît, il rampe avec ses deux petits moignons de pattes avant. C'est compliqué.
Et là, il trouve la mamelle dans la poche.
Voilà, alors il s'accroche à une mamelle qu'il choisit, il la mord, et là, il n'en démordra plus pendant 6 mois, parce que la tétine gonfle dans sa bouche, le lait gicle tout seul, et le petit, il est nourri en self-automatique.
Pourquoi on dit que la femelle kangourou peut décider de la date de son accouchement ? Pourquoi elle a le choix ?
Alors, elle décide surtout du départ de l'œuf. En fait, les femelles kangourous, elles ont un truc extraordinaire, c'est qu'elles peuvent avoir 3 générations en elles. Un grand kangourou qui est dans la poche, là, qui est presque adulte, sur une tétine. Un tout petit qui vient de naître, là, comme je viens de vous le décrire, sur une autre tétine. Et d'ailleurs, chaque tétine fait un lait différent. Il y a le premier âge et il y a le deuxième âge.
C'est génial.
Et elle a encore dans le ventre, et c'est de ça que vous me parliez probablement, elle a un œuf qui est prêt à être déclenché, si vous voulez, mais ça c'est sur mesure, c'est en cas de famine, justement en cas pardon de nourriture abondante, et si tout va bien, elle aura un troisième petit.
D'autres animaux surprenants, d'autres marsupiaux à découvrir dans un instant dans la curiosité. Son surnom, le paresseux, son nom, Koala. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Ce serait pas la musique du film Crocodile Dundee, si je me souviens bien, avec cet acteur là, avec son chapeau, c'est Santiago, l'espèce de mâle personnifié.
C'était le héros de mon enfance, l'aventurier que j'ai rêvé de rencontrer, puis je vous ai rencontré.
Oui, ça a tout changé dans votre vie. Tiens, les aventuriers, ça fait partie de ceux qu'on aime recevoir dans la curiosité, parler d'aventure. Il y en aura dans nos sommaires de 14h à 15h sur RTL. Les gens passionnés sont passionnants et ils sont dans la curiosité. Et notre invité, le naturaliste Marc Giraud, en fait partie. Il faut dire, Marc, vous savez comme personne raconter des histoires d'animaux. Vous êtes tous les jours dans l'émission de Stéphane Bern. C'était le vendredi la saison dernière. Ce sera quand maintenant ?
Tous les mercredis.
Tous les mercredis, on vous retrouvera après-demain. Alors, on a découvert avec vous les secrets des kangourous et de cette poche ventrale. On va parler d'un autre marsupial, c'est un peu compliqué comme mot, le koala. Alors d'abord, vous allez nous rappeler à quoi il ressemble le koala. C'est une petite boule de poil,
trop mignon. C'est mignon, c'est comme tout le monde le connaît. Hein. J'en ai tenu dans mes bras au zoo de Beauval, c'est vraiment mignon. Ça sent un peu le bonbon contre la toux, hein. Ça sent l'eucalyptus, mais c'est une grosse fourrure. Oui.
On va comprendre pourquoi ça sent l'eucalyptus. D'abord, je voudrais bien qu'on parle de ses mains, parce que c'est peut-être ce qui attire tout de suite le regard. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les mains du koala ?
C'est très 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 bizarre. Bon, j'en ai dessiné, évidemment, à la radio, ça ne se voit pas bien. J'en ai mis sur ma page Facebook. Alors, la main, l'index est parallèle au pouce, c'est-à-dire qu'il y a deux doigts d'un côté et trois de l'autre. Donc, ça fait une espèce de pince très, très efficace pour s'accrocher aux branches. Et sur le pied, il y a deux doigts qui sont soudés, c'est-à-dire qu'il y a un gros doigt avec deux petits ongles au bout, et ça lui sert de peigne, justement, pour se gratter son épaisse fourrure. C'est très pratique, c'est vraiment des instruments qu'il a à sa disposition.
Et qu'est-ce que les mains du koala ont en commun avec les mains humaines? Parce qu'on dit qu'il y a un petit point commun.
Ce ne sont pas
les empreintes digitales?
Ah oui, alors évidemment, ouais. Il y a des empreintes digitales, et puis bon, il y a cinq doigts, mais vraiment oui. Fichu d'une drôle de manière par rapport à nous. Quoi.
Mais ça veut dire que ça lui donne au koala une puissance particulière des deux côtés?
Oui, pied, ça fait comme une pince, parce qu'il y a deux doigts, au lieu de qu'il n'y ait qu'un pouce comme chez nous, il y a deux doigts du même côté, donc c'est beaucoup plus fort. Et en plus, ils ont des paumes antidérapantes, ça aide. Et en revanche, c'est très délicat pour cueillir des feuilles d'eucalyptus.
Ça lui sert à s'accrocher un peu n'importe où, à tenir en équilibre dans les arbres, etc.
Alors, venons-en à l'eucalyptus, c'est son plat préféré au koala?
Oui, il mange quasiment que ça, c'est très rare parce que l'eucalyptus c'est une plante épouvantable qui est pleine de tanins, de toxiques, de lignines, c'est-à-dire c'est dur comme du bois, c'est quasiment pas digeste, en fait ça se digère pas, mais le koala a pris cette niche écologique très rare, il mange des eucalyptus, donc il a pas de concurrence, il est tranquille.
Mais ça arrive souvent dans la nature qu'il y a des animaux comme ça qui soient un peu obsédés de... Moi j'ai regardé le très beau film documentaire de Disney Nature, né en Chine, qui raconte notamment l'histoire des pandas. Alors eux, c'est les bambous, les obsédés des bambous.
C'est des carnivores qui sont devenus végétariens, les pandas, c'est encore autre chose. Ouais. Oui, ils sont devenus sur une niche écologique très étroite, c'est-à-dire qu'ils sont tranquilles, mais si jamais il n'y a plus de bambous ou d'eucalyptus pour les koalas, ils sont très très mal.
Et puis Marc Giraud, ce qui est fascinant aussi chez ces animaux et chez le koala, c'est la faculté d'adaptation. Qu'est-ce que fait le bébé koala pour être capable de digérer cet eucalyptus?
Alors ça, c'est assez particulier. C'est en 1933 que ça a été découvert par un Australien qui voyait une femelle kangourou recroquevillée sur une branche avec son petit entre les jambes. Il se demandait ce qu'il faisait. Il s'est aperçu qu'en fait, le petit qui sortait donc par la poche, par l'arrière, il avait la tête dans l'anus de sa mère, qu'il écartait d'ailleurs pour aller plus profondément, et il mangeait ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça s'appelle avoir la tête dans le cul, c'est un peu ça.
Ah, ça vient de là.
Voilà, ça vient de là. Ça vient du koala.
C'est une traduction de l'australien, on dirait. Voilà. Très bien.
Mais là, c'était pas parce qu'il n'était pas bien réveillé.
Non, il mangeait la bouillie d'eucalyptus prédigérée parce que c'est plein de micro-organismes, de flore intestinale dont ils ont besoin pour se nourrir. C'est fréquent dans le monde animal, d'ailleurs.
Ah, c'est nos probiotiques, finalement.
Voilà, c'est ça. Et il se les fournit lui-même. Les termites qui mangent du bois, par exemple, c'est pareil. Les petits lèchent l'anus des adultes, c'est comme ça, mais parce que ils s'ensemencent avec ce qui les aide à digérer. Donc c'est tout à fait normal. Mais la première fois qu'on a vu ça, on a été étonnés.
Hein. Oui, certes. Avec vous, on en apprend de belles, en tout cas. Marc Giraud, Sidonie disait tout à l'heure que le surnom du koala, c'est le paresseux. Alors, est-ce qu'il mérite ce surnom?
En plus que le paresseux, même parce qu'il dort 20 heures par jour, plus que le chat qui est déjà un champion, 20 heures. Donc il n'a plus que 4 heures pour manger, bouger, faire sa toilette, faire tout. Donc,
et faire caca, parce qu'il va très souvent aux toilettes, le koala.
Ah oui, 150 fois par jour. Oui, c'est des petites crottes sèches, ça y va. C'est un peu des mitraillettes. Oui, il fait très souvent.
150 crottes divisées par 4 heures. À moins qu'il fasse caca la nuit.
Ah, ça c'est possible, ça, j'ai pas été vérifié, je suis désolé.
Il a des problèmes de prostate.
C'est terrible.
Non mais attendez, 150 fois par jour, pardon, il pourrait pas présenter la curiosité déjà, ce serait un vrai handicap. Est-ce qu'il y a une... Parce que ce qu'on a appris avec vous, Marc Giraud, depuis trois saisons que vous venez régulièrement dans la curiosité, jusqu'à présent c'était de 20h à 22h, et donc nouveau rendez-vous, c'est de 14 à 15, depuis maintenant, sur RTL, c'est qu'il n'y avait pas de hasard en général. C'est-à-dire qu'il y a une théorie de l'évolution, et si ils ont développé ça, c'est pas pour rien. Est-ce qu'on sait pourquoi les koalas font, si souvent caca?
Alors ça, c'est une adaptation à leur régime très très particulier, justement. Ils mangent très peu, comparable aux ruminants qui ont une espèce de cuve de fermentation, mais eux c'est à l'arrière, c'est dans ce qu'on appelle le cécum, c'est le bout du tunnel, mais leur cécum à eux, ils font 2,50 m de long quand même. C'est-à-dire 3 ou 4 fois la longueur de la bête. Donc il y a une industrie comme ça pour manger ces espèces de plantes qui sont immangeables. Donc il y a toute une usine de transformation, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de matière et il y a beaucoup d'évacuation.
Dans cette émission, la curiosité est un vilain défaut. On adore apprendre de nouveaux mots et depuis tout à l'heure, on dit des crottes et du caca. Mais en fait, c'est un autre nom, le caca de koala.
À l'effet fesses, oui. F-E-C-E, accent grave, S. Ça vient du latin, en fait. Fax, faces, qui veut dire résidu. C'est comme ça qu'on appelle les crottes. crottes des mammifères, mais il y a tout un vocabulaire sur les crottes. Hein.
Bon, allez, dans un instant, on fait un bond dans le temps. Très loin, on va pouvoir remettre la musique de Jurassic Park. On va découvrir le diprotodon, un animal grand comme un rhino, avec une poche ventrale pouvant contenir un humain.
Vous écoutez RTL.
Il y a 50 000 ans, des animaux de taille gigantesque vivaient encore en Australie.
La curiosité est un vilain défaut.
Le Wamba géant, ou diprotodon. Ce colosse occupait les forêts ouvertes, la brousse ou les prairies, et consommait plus de 100 kilos de végétaux par jour.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
La curiosité sur RTL, nouvel horaire, on est ensemble jusqu'à 15h et on a le plaisir de recevoir le naturaliste Marc Giraud qui nous emmène toujours dans des balades pas possibles, on le suit, les yeux fermés mais les oreilles bien ouvertes quand même. Vous nous faites découvrir, et c'est vrai ça fait mal, vous nous faites découvrir des animaux étranges, alors notamment les marsupiaux dont on a parlé, qui ont cette originalité d'avoir une poche comme ça dans laquelle le petit finit sa croissance. Et puis il y a ceux qu'on peut croiser encore aujourd'hui et puis il y a ceux qui ont disparu comme le fameux diprotodon. Quand vivait-il celui-là ?
Alors, il a disparu il y a 46 000 ans à peu près, avec l'arrivée des humains. Ça, c'est classique, c'est un peu partout, hein, dans tous les continents. Quand les humains arrivent, les gros animaux disparaissent.
Parce qu'on leur fait peur ?
Non, parce qu'on les chasse.
Parce qu'on les chasse.
Et ils ne sont pas habitués à ces petits machins qui marchent à deux pattes et qui ont l'air de rien. Ils n'ont même pas peur. Ils sont naïfs, comme disent les scientifiques. Et en fait, ils prennent cher et disparaissent. Donc, le diprotodon, c'était le plus grand marsupial qui ait jamais existé, quand même. Hein, qui faisait 3 tonnes, 3 mètres de long, 2 mètres de haut, qui était grand comme un bon gros rhino. Et comme vous disiez, un humain pouvait rentrer dans la poche. Donc, vous imaginez la taille du petit, quoi.
Comment vous pouvez nous dire tout ça ? Qu'est-ce qu'on a retrouvé de ce, je vais le dire dans l'ordre, parce que tout à l'heure je me suis trompé, quoi. Diprotodon.
Oui, et alors on a découvert un cimetière géant où il y avait plein de squelettes, notamment de femelles avec le squelette du petit. Donc on a fait des reconstitutions, il y avait aussi des varans géants, des pitons géants, enfin toute une faune qui a disparu, qui était peut-être leur prédateur d'ailleurs, et c'est en 2012, donc c'est assez récent cette grande découverte de cimetière.
Est-ce que les scientifiques peuvent reconstituer par exemple la manière dont le petit diprotodon sortait du ventre de sa maman, entrait dans la poche ? Est-ce que ça c'est des éléments qu'on peut avoir, ou on peut juste imaginer la silhouette et basta, et c'est déjà bien.
Alors, il y a une part, c'est ce qu'on retrouve, si on retrouve des peaux, si on retrouve des restes, et il y a aussi la déduction, parce qu'on compare avec les animaux d'aujourd'hui, les diprotodons, donc c'est des espèces de wombats. Les wombats, c'est très proche du koala, mais qui marche à quatre pattes, en gros. Hein, c'est koala des plaines. Et c'était la même chose en géant, donc on imagine qu'il y avait des points communs.
Et donc, si Denis me disait vous l'avez dans le dos, en fait, j'aurais pu être dans sa poche, quoi, c'est
c'était
ça ?
C'était pour vous faire peur, mais ça a raté.
Ça a pas marché. J'étais trop concentré.
Il a peur de rien. Est-ce que le loup de Tasmanie peut vous faire peur ? Peut-être. Il a disparu aussi,
lui
cet
aussi,
animal ?
Oui, c'est triste. C'est une triste histoire, le loup de Tasmanie, qu'on appelle le thylacine. Ça ressemblait un peu à un grand chien ou à un loup, d'ailleurs. On l'appelle aussi tigre de Tasmanie parce que ça avait le dos un petit peu tigré, rayé. Et c'était un prédateur et on l'a massacré jusqu'au dernier. Donc
Depuis quand ça, le dernier loup de Tasmanie, il vivait quand sur Terre ?
Alors déjà, il y en avait partout en Australie, ils ont disparu avec les aborigènes, ça a commencé tôt. Ouais. Il n'en restait que en Tasmanie quand le gros des colons est arrivé au 18e siècle.
Alors c'est où la Tasmanie ? Il faut déjà refaire un tout petit peu de géographie.
C'est une île à côté de l'Australie,
ouais.
Où il y a une faune assez semblable, mais pas tout à fait. Donc il y avait encore des thylacines quand ils sont arrivés, mais ce pauvre thylacine, c'est un prédateur, donc il pouvait manger par exemple les animaux qui étaient coincés dans les pièges des trappeurs, et on l'a complètement diabolisé, comme on fait sur le loup aujourd'hui, on dit n'importe quoi sur
le renard,
loup, ouais. Ouais, et sur le renard, et on disait n'importe quoi sur cet animal qui était capable de sucer du sang, qui était une vermine, etc. Donc on les a massacrés, et par milliers. Et sur un petit territoire quand même, la Tasmanie c'est grand comme deux tiers de l'Irlande, donc c'est pas grand. On tuait plus de 2000 en quelques années, il restait plus grand chose, et il y avait des primes pour tuer ces animaux, et le gouvernement a réagi en 1936 en disant attention, on va le protéger. Deux mois après, le dernier connu en zoo était mort, donc en fait il s'est arrivé trop tard.
Donc on ne pourra plus jamais en croiser de loup de Tasmanie.
Ah, il y a des fantasmes là-dessus, on aimerait bien. Il y a des films un petit peu flous, un peu ambigus, il y a des gens qui ont trouvé des traces. Il y a eu des choses jusqu'en 2002, je crois, un vrai naturaliste qui pense en avoir vu. On aimerait bien qu'il existe encore, mais...
Pourquoi vous mettez dans la catégorie des animaux bizarres, étranges, dans sa description physique, parce que là vous avez dit il ressemble à un loup, à un chien, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors il ressemble à un loup, sauf que c'est un kangourou. C'est ce qu'on appelle la convergence évolutive, c'est-à-dire que face aux mêmes contraintes, la nature trouve les mêmes solutions. Donc ça n'a aucun rapport avec un loup ou un chien, c'est pas du tout un mammifère placentaire, voilà. C'est vraiment un cousin du koala, du kangourou, et ça a une forme de loup. C'est ça qui est extraordinaire. Il avait beaucoup de dents, 46 dents, il avait une mâchoire qui s'ouvrait d'une manière extraordinaire.
120 degrés, je crois, c'est ce qui est assez unique.
Oui, c'est unique chez les mammifères.
Ce qui pouvait expliquer la peur de l'époque. Peut-être.
C'était des fantasmes. Ouais. Il y avait une photo qui circulait d'un thylacine avec une poule entre les dents. Donc ça faisait peur à tout le monde, on les a flingués aussi à cause de ça, et on s'est aperçu il n'y a pas très longtemps que c'était une photo truquée avec un thylacine empaillé. Donc voilà, mais c'est trop tard pour le réhabiliter.
Il avait une poche aussi, ce loup de Tasmanie, et le mâle notamment, on l'appelait la poche scrotale.
Alors c'est celui-là, c'est un des deux, c'est le seul en Australie qui ait une poche, encore une fois, pour mettre ses coucougnettes, donc ça servait à ça.
Mais ça marche comment ça? C'est-à-dire, comment...
Alors, vous êtes bien curieuse, les sébis sont attirés,
c'est loup de Tasmanie.
C'est le nom de l'émission, c'est la curiosité.
C'est pas faux.
Et alors le problème, c'est qu'on n'a pas étudié cet animal. On la considère comme une vermine, on ne sait quasiment rien de lui. Il y a quelques films très très poignants en noir et blanc, on les voit tourner en cage dans des zoos, et c'est à peu près tout ce qu'on en a, deux ou trois empaillés, c'est tout.
Loup de Tasmanie, tigre de Tasmanie, on entend aussi diable de Tasmanie, c'est un autre animal ?
Oui, celui-là il existe encore.
Pourquoi finalement il y a tant d'animaux bizarres ou étranges dans cette région du monde ? Parce que là avec vous on voyage aussi en Australie, en Tasmanie ou en Nouvelle-Zélande. Pourquoi ? Et dans le temps, parce que elles se sont développées, le fait que ce soit des îles ?
Voilà, c'est ça, comme c'est isolé, les mammifères ont évolué différemment. Donc il y a des choses que tous les autres mammifères ont inventées, genre avoir un placenta et des mamelles, mais eux pas forcément. Ils sont restés à un certain niveau à ce niveau-là, mais en fait ils sont aussi évolués que les autres. Hein. L'ornithorynque, il est aussi évolué que n'importe quel mammifère. Hein.
Alors justement, si je vous dis un bec de canard, une queue de castor, des pattes palmées de loutre et une démarche de reptile, j'avais préparé une blague, j'allais dire c'est Thomas, pas très sympa. Mais
je vous connais trop bien.
C'est l'ornithorynque.
Une queue de castor.
Allez, on fait connaissance tout de suite sur RTL avec l'ornithorynque, pas la queue de castor de Thomas.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
Alors, on s'est un peu emmêlé les pinceaux dans nos jingles. C'est pas la curiosité du week-end, ça c'est sûr. C'est la curiosité de tous les jours. Merci beaucoup André Facetta, qui n'a rien bu pourtant. On peut témoigner, on était ensemble à la cantine. Bref, c'est la curiosité est un vilain défaut. C'est tous les jours de 14h à 15h. C'est un nouveau rendez-vous sur RTL. Et d'ailleurs, tiens, on fait un coucou à l'ami Jacques Pradel qui lui vous donne rendez-vous pour l'heure du crime à 20h tous les jours du lundi au jeudi sur RTL. Nous, on est avec Marc Giraud, c'est notre naturaliste préféré. Si vous nous suiviez les saisons précédentes, vous savez que c'est l'un de nos sociétaires. On adore découvrir l'histoire et le comportement des animaux grâce à vous, Marc Giraud, et notamment donc ces animaux bizarres, étranges. On a vu le kangourou, on a vu le koala, on a vu ceux qui sont disparus comme le loup de Tasmanie. Bienvenue à l'ornithorynque. Alors, on l'a un peu décrit, mais quand même, allez-y, dans le détail, ça ressemble à quoi ?
C'est un patchwork. Vraiment, on a séquencé le génome d'ailleurs d'un ornithorynque. Même ses gènes sont un patchwork d'oiseaux, de mammifères, de reptiles. Il y a de tout là-dedans. Donc, regardez, il creuse un terrier comme un lapin, il a des bajoux comme un hamster, il a des ergots comme un coq, alors il a une queue qui ressemble à celle d'un castor, et le bec, le fameux bec de canard qui lui a donné son nom, ornitho sur oiseau, rien que ses becs. Et en fait, c'est pas du tout un bec de canard, c'est caoutchouteux. C'est un organe, c'est comme une main, c'est sensible comme une main, c'est extrêmement sensible. Ça a 40 000 capteurs électriques, parce que quand il pêche l'ornithorynque, il est sous l'eau, il ferme les narines, les yeux, les oreilles. Il est complètement aveugle, il n'entend rien. Il n'y a que cette espèce de main qu'il a au milieu de la figure, son bec, qui détecte la moindre impulsion électrique de ses proies, et c'est comme ça qu'il se nourrit. Donc c'est extrêmement évolué. On dit, c'est un chaînon manquant, tout ça, ça ne veut rien dire du tout. Il n'y a pas de chaînon manquant, c'est un animal très évolué.
Mais ça veut dire quand même, si dans son génome il y a des traces de mammifères, d'oiseaux et compagnie, ça veut dire quoi,
qu'elles sont restées.
Il y a une grosse orgie qui a donné naissance à cet ornithorynque. C'est l'histoire qui a... beaucoup croisé en fait.
C'est resté à l'époque où on avait plein de gènes communs, oiseaux et reptiles d'ailleurs, c'est un peu la même chose, et les premiers mammifères. Donc il y a une période où on n'était pas encore totalement séparés. Il a encore ces gènes-là que nous on n'a plus, mais lui il les a. En revanche, il en a qu'on n'a pas. Il est très original.
Et lui aussi, il ne vit qu'en Australie ou on peut le trouver dans d'autres parties du monde. La même chose.
Le platypus.
Il pond des œufs aussi.
Oui, voilà. C'est comme ça qu'il est bizarre, connu. Hein. Il pond des œufs. Alors ces espèces de petits œufs, gros comme des grains de raisin, la femelle en fait deux ou trois qui sont mous, comme ceux des reptiles d'ailleurs, qui sont collés. Et elle souffle dessus pour les assécher.
Elle les couve,
au début, elle les garde dans un repli de sa peau, parce que c'est pas un marsupial, elle a pas vraiment de poche. Et au bout d'un moment, ils éclosent.
Donc c'est un mammifère qui pond des œufs. Il y en a d'autres dans la nature.
Oui, il y a d'autres monotrèmes, donc il y a les échidnés.
Ça
ressemble à des hérissons, c'est complètement un puzzle aussi. Ça a des pieds de taupe, ça creuse, ça a des piquants de hérisson, c'est un grand bec de fourmilier parce que ça mange des fourmis. L'échidné, c'est encore un truc, une spécialité australienne qu'on ne voit pas ailleurs.
Comment l'ornithorynque nourrit son petit ?
Alors, elle allaite, mais sans mamelle vraiment. C'est le lait suinte, comme un peu des gouttes de sueur avec des glandes subdorypares, c'est pareil. Et les petits lapent, parce qu'ils n'ont pas encore de dents, ils ont encore le petit bec tout mou, et ils lapent la fourrure de la femelle, en fait. C'est comme ça qu'ils se nourrissent.
Vous allez penser qu'on est des obsédés, mais non, c'est juste de la curiosité et de la science. L'ornithorynque a des organes génitaux un peu particuliers. Le mâle, par exemple, ça se présente comment ?
Il est bifide aussi.
Ouais.
Il
me semblait que l'urètre était très éloignée du sexe.
Ah oui, c'est assez long. C'est assez long, oui, c'est vrai.
Vous avez vu, je...
Si Denis a regardé des photos en préparant
l'urètre
ce matin dans le bureau de la curiosité sur RTL, c'était quelque chose. Hein.
De l'ornithorynque, oui. Oui, c'est une des bizarreries. Il y en a plein.
On a chacun nos obsessions communes.
Bon, alors moi, je vais parler de la femelle, du coup. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la femelle ornithorynque ?
Alors, ce qu'on vient de dire, mais le mâle, on n'avait pas fini, c'est qu'il a un ergot venimeux. Oula. C'est-à-dire qu'il a un ergot de coque qui ressemble autant d'ailleurs à un crochet de serpent, parce qu'il y a une glande à venin quand même. Donc, il peut infliger des piqûres très douloureuses. Pas mortel pour l'homme, mais mortel pour des petits animaux quand même. Ouais. Et c'est un petit animal d'ailleurs. Quand on le voit en vrai, on est surpris. On imagine une grosse bête, c'est comme un petit lapin, hein, ça tient dans les mains. C'est pas très grand.
Mais cet ergot venimeux, il s'en sert pour quoi ? Pour se défendre ou pour chasser ?
Les deux. Surtout pour se défendre, faut pas l'attraper comme
et
ça. Quoi.
Qui aime manger de l'ornithorynque ? Quels sont ces prédateurs ?
Manger par leur... Alors, c'est des petites bêtes aquatiques, des petites crevettes, des petits insectes.
Ah non, pardon.
Ça, c'est ce que lui
qui
mange.
Qui aime se régaler de l'ornithorynque ?
Ah, je lui connais pas de prédateurs. Bah, sûrement. Je sais pas. Peut-être les dingos, comme d'habitude. Ouais. C'est les chiens... les carnivores, quoi. Il y en a plus beaucoup. Peut-être les renards, les chats, maintenant.
Et la queue de l'ornithorynque, cette queue de castor, là, est-ce qu'elle lui sert à quelque chose ? Tout à l'heure, on était avec le kangourou, donc on a dit ça lui sert de trépied, ça lui sert à prendre une impulsion pour bondir très haut. Et l'ornithorynque.
Ça sert de gouvernail et de frigo.
De frigo,
oui. Oui, c'est une réserve de graisse en fait. Il peut y avoir 40% de ces réserves de graisse qui sont dans la queue, donc qui grossit quand il a de quoi se nourrir, parce qu'il se nourrit énormément. Hein. Il mange quasiment la moitié de son poids tous les jours, et la femelle allaitante mange son poids tous les jours, donc ça bouffe un ornithorynque, faut les nourrir. Hein. Et quand il a beaucoup de nourriture, il en garde en réserve dans sa queue. C'est vraiment sa réserve, son frigo.
Alors tous ces animaux dont on parle, l'ornithorynque, le koala, le kangourou, ces drôles de bestioles viennent d'Australie, c'est une île continent, on le disait tout à l'heure. Elle est 14 fois plus grande que la France. Est-ce que cette île continent a le monopole des animaux étranges ?
Non, il y en a partout, mais là c'est vraiment un festival, quoi. Il y en a pas deux qui ressemblent au nôtre. C'est ça qui est très très curieux.
On s'en fait une petite dernière.
Ah,
la tortue
celle-là.
Fitzroy.
Ah, la tortue qui respire par le derrière.
Allons
bon. On l'a trouvé.
Il y a Jean-Alphonse Richard qui nous a rejoint pour parler de Mireille Darc et d'Alain Delon. Il fait une drôle de tête. Hein.
Elle est curieuse cette tortue parce qu'elle sort pas de l'eau. Comme les autres tortues, souvent elles viennent respirer, on voit juste leurs narines qui dépassent. Et elle faisait passer que le derrière. Très très étrange. Donc on s'est aperçu qu'elle avait une sorte de bourse très vascularisée qui assimile l'oxygène, et vraiment elle respire par les fesses, cette tortue là. Donc c'est la tortue de Fitzroy. Fitzroy, c'est le capitaine du Beagle, vous savez, le bateau qui a emmené Darwin, donc a donné son nom parce qu'ils ont accosté là-bas. Darwin a vu des ornithorynques d'ailleurs, au passage.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Marc Giraud, sur ces bons mots. Bon vent pour apprendre encore plus de belles histoires et d'étranges histoires sur les animaux. Vous pouvez lire Super Bestiaire. C'est c'est chez Robert Laffont. Sinon, on vous retrouve sur RTL avec Stéphane Bern dans À la bonne heure, tous les mercredis à 11h. À très vite, Marc Giraud.
Vous écoutez RTL.